Jean-Claude Casatu, bonjour, bonjour.
Bonjour.
Soyez le bienvenu. Merci de me recevoir chez vous. Merci de m'offrir de votre temps dans ces moments difficiles que nous vivons et que vous vivez plus particulièrement le monde de la culture. Alors, je voudrais tout d'abord vous citer Mozart. Un jour, on a posé la question à Mozart de savoir qui il était. Et voilà quelle fut sa réponse, je le cite. « Je ne peux pas écrire en vers, je ne suis pas poète. Je ne peux pas distribuer les couleurs, je ne suis pas peintre. Je ne peux pas non plus m'exprimer par signes et pantomimes, mes sentiments et mes pensées. Je ne suis pas danseur. Mais je le peux par les sons, car je suis musicien. » Jean-Claude Casastu, et vous, qui êtes-vous ?
Eh bien, écoutez, il se trouve que je suis aussi musicien, mais vraiment un minuscule musicien comparé à Mozart. Ma plus grande joie, c'est en effet de pouvoir transmettre, de pouvoir partager des émotions que j'éprouve par le biais de mon métier, qui est plus, je dirais, alors puisque ça va dans votre sens, en l'occurrence, je pense que mon métier est une philosophie, un état et parfois un destin. La philosophie, c'est aussi un « connais-toi mieux toi-même » en pénétrant les grands chefs-d'œuvre. Et c'est aussi la possibilité de, en étant, si j'ose dire, transmetteur, parce qu'il y a des émetteurs. Les émetteurs, c'est les chefs-d'œuvre qui émettent en nous quelque chose et nous transmettons ce qu'on nous propose au niveau des chefs-d'œuvre, aux musiciens et au public.
Et est-ce que par, si je puis me permettre de m'exprimer ainsi, est-ce que par votre baguette vous pouvez nous interpréter la partition de votre vie pour reprendre le livre que vous aviez publié en 2012 ? Est-ce que vous pouvez nous retracer les grandes lignes de votre carrière professionnelle ?
Alors, vous avez devant, sur cette cheminée, vous avez une photo de Tolstoï. Tolstoï a accueilli mon grand-père qui habitait cet appartement. Avec ses frères et ses sœurs, il avait probablement le plus fameux orchestre baroque du début du XXe siècle. Et vous avez ici une photo que je vais peut-être vous montrer tout à l'heure, si vous voulez, elle est juste là, un peu cachée. C'est moi au violon à 4 ans et demi, dans cette pièce, que mon grand-père, avec son ami Pierre Monteux, qui était le créateur du Sacre du Printemps, comme vous le savez, m'ont mis un violon dans les mains, en décrétant que comme j'avais le sens du rythme, à 4 ans et demi, je serais sûrement chef d'orchestre. Donc, si vous voulez, mon destin, si j'ose dire, a débuté dans cette pièce.
Ah oui, à 4 ans et demi.
En 1939, hélas, parce que le temps passe très très vite.
1939. Et alors après, vous êtes une famille de très grands artistes. Et vous avez toujours bercé dans la musique jusqu'à...
Alors je veux dire, en deux mots, mon grand-père était le 9e enfant d'une famille de 14.
D'accord.
Son père adorait la musique, il était guitariste amateur, violoniste amateur et expert comptable. Et alors pour arrondir ses fins de mois, et par passion, il jouait souvent dans les boîtes le soir. Il rentrait et il allait voir ses enfants, il les réveillait la nuit, il faisait « Qu'est-ce que c'est que cette note ?» Je ne sais pas, si bémol, non, là, il leur a donné une claque, il leur a donné l'oreille absolue, il a rêvé que tous ses enfants, petits-enfants et la famille se réalisent dans la musique, ce que mon grand-père a fait avec ses frères et ses sœurs, qui répétaient dans cette pièce.
D'accord.
Je vous montre cette photo de Tolstoï, mon grand-père a parcouru toutes les cours d'Europe à l'époque. Saint-Saëns, Camille Saint-Saëns, oui, était le premier président de son orchestre, et dans cette pièce sont venus... Gabriel Fauré, qui a poussé ma mère dans son
album,
Saint-Saëns, Rimsky-Korsakov, Tanzmann, Honegger me faisait sauter sur ses genoux dans cette pièce.
Wow.
Et nous partagions la même passion pour les locomotives, moi à 5 ans, lui à 40 ans. Et donc, si vous voulez, j'ai été en effet adoubé très très tôt. Et puis, j'ai travaillé le violon pendant un petit moment. Et puis ça m'a fatigué d'avoir le bras comme ça, vous savez, c'est très
exigeant. C'est ça, oui.
Alors donc j'ai commencé mes humanités, comme on dit, musicales, mais alors je détestais j'avais dû le lire dans un de mes livres. Je détestais l'enseignement caporaliste de l'époque, et donc j'ai abandonné pendant un moment. Et c'est la révélation du concert, quand j'avais 11-12 ans, j'ai été conduit par ma grand-mère. Mon grand-père, hélas, venait de mourir. Et j'ai eu la révélation du son gigantesque, merveilleux, tellurique, arachnéen que pouvait déchaîner ce démiurge à la tête d'un orchestre qui m'a fasciné. Et je me suis dit, je voudrais être chef d'orchestre. Bon, il se trouve que j'ai là repris le piano, j'ai joué de l'orgue, et j'avais à 14 ans un orchestre de jazz comme pianiste. Ensuite, je suis rentré au conservatoire, j'ai fait mes humanités, alors là très sérieusement, j'ai eu un premier prix de percussion et j'ai fait mon métier de batteur percussionniste.
D'accord.
Dans les séances d'enregistrement, sous la direction des très grands chefs, sous la direction aussi d'autres styles, d'autres arrangeurs. Et mon panthéon musical a eu la chance d'être confronté à tous les styles.
D'accord.
Les styles, qu'est-ce que c'est ? C'est l'identification. L'identification permet la pénétration, justement, de la pensée des créateurs que l'on a pour mission de servir.
Super, c'est un très beau, une très belle carrière professionnelle qui se poursuit actuellement. Malheureusement, avec cette pandémie, elle est un peu à l'arrêt. Tout à l'heure, je vous disais que vous êtes une famille de très grands artistes, vous êtes un très grand artiste. Je voudrais faire le parallèle entre la peinture et la musique. Le peintre imagine le monde, le musicien l'interprète. Ma question est la suivante.
Le comédien aussi, le danseur aussi.
Le danseur aussi, tout à fait.
Oui.
Le
comédien. Ma mère était sociétaire de la Comédie Française.
Voilà.
Moi, j'ai été bercé dans la musique des mots,
voilà,
avant la poésie des notes.
Voilà, et votre maman, Gisèle Kadatsou, oui, qui était vraiment oui, pensionnaire de la Comédie Française.
Mais, sociétaire.
Sociétaire, oui, pardon, sociétaire. Mais ma question est la suivante. Interpréter, vous qui êtes musicien, n'est-ce pas d'une certaine manière trahir ? Quand on interprète une œuvre, est-ce qu'il n'y a pas une...
Écoutez... Il y a le risque de la trahison.
Il y a le risque.
Bien sûr. Il y a le risque de la trahison, mais vous savez, j'ai une de mes devises, c'est servir, oser, transmettre et obtenir. Servir, c'est vraiment s'imprégner de la pensée du créateur que l'on a pour mission de servir, le compositeur. Oser, c'est s'autoriser quelques transgressions que l'on croit positives, c'est-à-dire un mouvement, une couleur, un silence habité. Un roubateau, comme on dit en musique, c'est-à-dire une flexibilité qui n'altère en rien la pensée du compositeur, mais qui donne la vie à son œuvre.
Oui.
Nous sommes un peu les Gepetto du Pinocchio chef-d'œuvre immobile. Nous animons au sens latin du terme, c'est-à-dire qu'on donne l'âme et nous donnons la vie. La musique, c'est la traduction la plus poétique de la vie, de ses joies, de ses souffrances, de ses voluptés, de ses espérances, de ses interrogations. Tout est dans la musique. Et dans la musique dite grande, ce qui m'a souvent un peu énervé, parce que les gens qui employaient ce mot-là, c'était en même temps, si vous voulez, l'excuse de ne pas aller au concert en disant « ça n'est pas pour nous ». Et je me suis juré, dans toute la mission que j'ai accomplie dans le Nord-Pas-de-Calais pendant 40 ans, que ce « ça n'est pas pour nous », je ferai en sorte que ça le devienne. Et j'ai consacré un chapitre dans mon premier livre, Le plus court chemin d'un cœur à un autre, un chauffeur de taxi qui m'emmenait à l'opéra où je dirigeais et qui me dit « Qu'est-ce que vous faites ?» Je lui dis « Écoutez, je suis chef d'orchestre, je vais diriger à l'opéra. » Il me dit « Oh, ça, c'est pas pour nous. Je me suis juré que je ferai en sorte que ça le devienne.
Oui. »
Et c'est ce que je me suis efforcé de faire parce que l'émotion artistique et particulièrement l'émotion musicale, chacun est à égalité devant elle. Simplement, il faut être saisi un peu comme, si j'ose dire, Saint Paul sur le chemin de la grâce,
oui,
quand vous recevez la beauté. Malraux a dit une chose très très belle. Il a dit « On peut être tenté d'aimer que le mot « art » puisse donner à des gens le sens de la grandeur qu'ils ignorent en eux. » J'ai constaté au cours de ma vie combien la musique, l'art en général, mais en ce qui me concerne, c'est la musique, pouvait avoir des effets extraordinairement bénéfiques sur l'apaisement, la sérénité, la douceur, le calme que ça peut transmettre. On dit même d'ailleurs que Mozart a permis à des vaches de faire du meilleur lait ou aux poules de fondre d'une façon. Alors écoutez, les vertus thérapeutiques de la musique sont quand même formidables.
C'est ce qu'on dit. Vous avez le livre que vous avez écrit, le cœur qui rejoint l'autre. Là. Est-ce que
le plus court chemin
d'un cœur
à un autre. Un autre. Pas à l'autre. Hein.
Oui, à un
le
autre.
Plus court chemin d'un cœur, qu'est-ce que c'est? Il n'y a pas la subversion des mots, c'est la musique.
Oui, c'est ça.
La musique, vous l'éprouvez, vous la recevez. Pas besoin d'expliquer.
Oui.
Et tout d'un coup, vous avez un univers imaginaire que vous pouvez nourrir par l'émotion que vous recevez.
Alors même si la musique ne s'explique pas, je dirais, rentrons un peu plus dans une réflexion philosophique, en disant que l'art est un besoin humain. Tout art est un besoin essentiellement humain. Et en fait, qu'est-ce que l'art? C'est un artiste qui va, pour reprendre le titre de votre ouvrage, c'est un artiste qui va rejoindre le cœur de l'autre, qui va lui taper, lui rentrer dans son cœur au niveau de l'émotion, au niveau des sentiments, etc. Cependant, en philosophie, est-ce que on n'a pas besoin de l'art pour nous rapprocher non plus du superflu, mais de nous-mêmes? C'est-à-dire que nous sommes dans un monde superflu, les relations sont superficielles, etc., on ne sait pas trop où on va. Est-ce que la musique, et l'art en général, ce n'est pas celle qui vient, remplir le cœur de l'homme pour non pas effacer le superflu mais s'en éloigner?
Je pense que l'art, c'est un questionnement. C'est un questionnement aussi sur soi. C'est aussi une prise de risque.
Oui.
C'est aussi un élément, quand vous le pénétrez, qui vous fait souvent prendre conscience de la grandeur des choses par rapport à la petitesse des vôtres. C'est quelque chose qui est, je crois, qui permet un contact, une fédération entre les gens, qui est, je crois, indispensable. Vous savez, c'est Dostoïevski qui a dit « La beauté sauvera le monde ». Bon, mais il faut se dire qu'en effet, c'est un moyen de réunion des âmes.
Alors on va en reparler de cette réunion des âmes juste après. Cependant,
ça n'est pas, j'ajouterais,
oui.
Ça n'est pas un supplément d'âme. C'est l'âme.
C'est l'âme. C'est directement l'âme, ce qui n'est pas la même chose.
C'est pas
tout à fait pareil. Mais avant de revenir sur ce que vous disiez à l'instant sur la fédération, etc., je voudrais citer Kant. Emmanuel Kant, dans la critique de la faculté de juger, à distinguer le beau, le sublime et l'agréable. Je vous donne simplement les définitions de Kant. Il dit que le beau, c'est une sensation universelle. L'agréable, c'est ce qui plaît à moi, donc c'est la subjectivité. Et le sublime, c'est la rencontre du désordre et de la démesure. Jean-Claude Casadesus, en tant qu'immense chef d'orchestre, est-ce que vous expérimentez, est-ce que continuellement vous expérimentez en dirigeant un orchestre ces trois notions, l'agréable, le sublime et le beau? Comment les interpréter?
Je pense qu'il y a une chose au départ, après analyse, d'où part-on, par où passe-t-on, où va-t-on, comme on nous l'apprenait aussi dans le Lagarde et Bichat, ou dans les œuvres qui nous demandaient à l'école, au lycée, d'analyser la poésie. De savoir comment est construite une œuvre. Et puis après, il y a non seulement la notion d'interprète, mais la notion de traducteur. Je suis un interprète traducteur, c'est-à-dire que j'essaie de traduire la pensée du compositeur en lui donnant la vie, c'est-à-dire en interprétant ce qu'il a voulu et en mettant la vie dans sa musique. Maintenant, pour revenir à votre question, vous me la reposez parce que j'ai un tout petit peu diversé, si j'ose dire.
Quelle est la place, pour reprendre les trois notions de Kant,
oui,
quelle est
la place de le sublime
et l'agréable?
L'agréable, on pourrait même aussi parfois parler de désagréable, parce qu'il arrive également que des esthétiques puissent ou nous enthousiasmer ou nous heurter.
Oui,
et
oui.
Ça, c'est un vrai problème, c'est de quelle façon est-ce que le goût est ressenti, comment est-ce que l'impression pour l'auditeur et pour le créateur est ressentie. Il m'arrive, avant d'étudier, de ne pas du tout être inspiré par des œuvres, qu'il faut pénétrer. Quant au public, il lui arrive aussi de se dire, par exemple, notamment pour la musique dite contemporaine, qui fait peur un nombre incalculable de gens, mais on oublie que chaque musique a été contemporaine, sauf que les créateurs sont toujours en avance sur les auditeurs. C'est-à-dire qu'un créateur, il a raison souvent trop tôt, et ça n'est que plus tard qu'on lui rend l'hommage qu'il mérite. Et vous avez Monteverdi, par exemple, qui a failli y aller en prison s'il n'avait pas eu la protection de son prince, parce qu'il avait introduit des dissonances un peu heurtantes pour les oreilles de l'époque dans sa musique. Et quand vous entendez, les gens quelquefois entendent Debussy, ils disent « Oh là là, c'est moderne », en oubliant que c'est un formidable compositeur qui, à partir de la fin du 19e siècle, est rentré dans le panthéon des grands créateurs contemporains, et qui est un classique, mais parlons de Dutilleux, parlons de Varès, parlons de Boulez, qui sont des représentants absolus de l'évolution, et Stravinsky, et puis Ravel, bien sûr, et combien d'autres, mais qui sont les, si j'ose dire, les représentants de leur époque, à travers ce qu'ils ressentent. Et Beethoven, on peut évoquer Beethoven, qui est un bon, comme, je ne suis pas tombé dans le lieu commun du grand génie que chacun connaît, mais pour moi, c'est le premier rocker du 19e siècle.
C'est-à-dire
que, et en même temps, c'est le premier illustrateur de la société industrielle en pleine expansion. Vous entendez la cinquième. Il y a les machines. Et en même temps, vous avez...
Ça bouge, c'est ça.
Donc, il a été totalement en prise avec son époque. Mozart a été complètement en prise avec la sienne. Jean-Sébastien Bach, c'est l'architecte classique, mais qui fait chanter les lignes. Il y a toujours une... Stravinsky, avec le Sacre du Printemps, a révolutionné aussi une forme d'écriture. Et Debussy, avec le Prélude à l'après-midi d'un faune, est rentré dans le panthéon des grands créateurs contemporains.
Oui. Est-ce que, avec tous les grands artistes que vous venez de nous citer, est-ce que la musique vous permet... Je rappelle que nous sommes dans le cercle de pensée Devenir pour agir. Est-ce que la musique vous permet-elle de devenir qui vous êtes?
Ah mais je vous ai dit il y a une seconde, l'art c'est aussi un questionnement et sur le connais-toi toi-même.
Oui, c'est ça.
C'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite dans, si j'ose dire, quand les gens vous disent « Ah mais vous connaissez bien cette œuvre, au stade où vous êtes arrivé, vous pouvez plus progresser ». D'abord, un artiste qui cesse de douter, cesse de progresser. Et c'est jusqu'au cimetière qu'on apprend et que l'on peaufine et que l'on révise les chefs-d'œuvre dont on a la charge. Et c'est vrai que le connais-toi toi-même permet aussi de voir où est-ce qu'on est capable d'aller dans la fidélité et en même temps dans l'interprétation.
Oui.
La limite, elle est étroite pour les musiciens. Elle l'est moins pour les metteurs en scène de théâtre ou d'opéra qui, quelquefois, font chanter les chanteurs la tête en bas et se mettent devant l'œuvre. Notre rôle, c'est de ne pas se mettre devant l'œuvre, mais c'est de la servir. Et c'est vrai qu'il y a des contextes, il y a des mythes qu'il ne faut pas transgresser. On peut transposer certaines périodes, il y en a d'autres qu'il est difficile de transposer. C'est vrai, quand vous voyez arriver Don Juan dans une voiture américaine sur une scène, pourquoi pas, mais il y a des élucubrations qui ne sont pas forcément au service de la musique,
qui est
la traduction, encore une fois, d'une pensée reliée à la vie.
Une pensée reliée à la vie, je crois qu'entre la musique et la philosophie, il y a un lien quand même très étroit, à savoir que tous deux toutes deux poussent à l'aspiration métaphysique. C'est-à-dire, et c'est Schumann qui dit la musique.
Métaphysique, vous savez, vous connaissez le mot réel, je l'emploie souvent. D'ailleurs, car la musique, en effet, il pousse à la métaphysique.
Et
c'est au-delà du réel.
Tout à fait, au-delà du réel. Et c'est ce que dit Schumann. Schumann dit la musique est ce qui nous permet de nous entretenir dans l'au-delà. Jean-Claude Casadesus,
que c'est pour moi une des voies les plus pures vers la spiritualité la plus élevée. Sans la traduction des mots et au niveau des vibrations un peu irrationnelles que l'on peut ressentir. Des vibrations qui provoquent parfois les larmes, que Wagner a essayé d'étudier en déterminant des accords qui provoquaient des l'émotion, mais ça reste un peu limité tout de même. C'est pas quantifiable mécaniquement. Et c'est un des mystères, je trouve, aussi de la naissance, de la mort, du corps humain. Et c'est pour ça que je suis tellement, attentif et un peu réticent à la mécanisation et à la robotisation des esprits à cause des technologies qui, en effet, sont nécessaires et dont on ne doit pas devenir esclave pour ne pas perdre de vue la dimension humaine.
Une toute petite parenthèse, parce que vous me permettez d'en parler maintenant, au niveau de la robotisation, je ne sais pas si vous avez entendu, mais l'année dernière, le Japon a inventé la première IA robot pour une quarantaine de... Qu'en pensez-vous?
Écoutez, vous mettez une mécanique devant un orchestre, il n'y a plus d'expression.
Et puis, il n'y a plus d'humanité.
La part d'humanité, elle est mise en rancard.
C'est ça.
Qu'est-ce que c'est que les gestes? Les gestes, ce n'est pas uniquement battre la mesure, c'est le geste et la traduction. Et le geste est le domestique de la pensée, qui elle-même est le fruit de l'alliage entre le cœur, la réflexion, l'analyse.
C'est ça.
Et la main gauche, puisque nous parlons de mon métier, la main gauche, c'est celle du cœur, mais c'est celle qui donne la flexion, le phrasé, la douceur, la force, la détermination, l'impulsion. Et là, c'est le code de la route, pour pas que les musiciens se perdent éventuellement.
Excellent. Ah oui, je ne connaissais pas les deux. Voilà, la fois, le code de la route et le phrasé.
Voilà, 3-4, 2-4, 5-8, 6-8. Là, c'est ce que les musiciens ont sur leur partie, ce qui est, si j'ose dire, objectif.
Oui.
Les mesures. Le rôle d'un bon musicien, c'est de sortir les notes de leur univers carcéral, que sont les barres de mesure. Et à partir de là, c'est pour montrer, si vous voulez, le chemin entre les différentes mesures, mais là, c'est pour donner l'expression. C'est pour ça qu'il faut avoir une indépendance quand vous êtes chef d'orchestre et ne pas diriger d'une façon parallèle. D'accord. Comme ça, parce qu'il y en a peu qui arrivent à, en effet, il y en a un certain nombre en tout cas qui n'arrivent pas à déterminer la différence entre là ce qui ne doit pas bouger et ça ce qui permet de...
Oui, c'est ça. Ce qu'un robot ne peut pas faire finalement.
Parce que le robot, il n'a pas d'âme.
Il n'a pas d'âme, tout à fait.
On nous prétend, j'y crois pas une seconde, on nous dit qu'un robot, peut avoir la sensibilité... d'un être humain. Il peut apprendre des gestes mécaniques de sensibilité qui correspondent à certains paramètres,
c'est ça.
Sûrement. Mais la spontanéité de la sensibilité, elle ne peut venir que de la vibration intérieure du corps humain qui est un chef-d'œuvre incommensurable et un cerveau dont on n'utilise que 10% de ses facultés, si mes renseignements sont exacts.
Ouais, en moyenne. Mais pour revenir aux aspirations métaphysiques, Jean-Sébastien Bach souligne, je le cite, « Le but de la musique devrait n'être que la gloire de Dieu et le délassement des âmes. » Jean-Claude Casatu, peut-être une question un peu personnelle. Êtes-vous d'accord avec Jean-Sébastien Bach? Croyez-vous en Dieu? Est-ce que la musique vous permet de vous rapprocher de Dieu?
Voilà, là, c'est une question compliquée. J'essaye de croire entre au bien et au mal. J'essaye de croire au comportement. Oui, j'essaye de croire. Il m'arrive de prier pour ceux que j'aime très régulièrement,
oui,
en espérant que je serai entendu. Mmh. J'ai été baptisé protestant, donc j'ai une ligne directe. Vous savez, alors de temps en temps, je discute en espérant, voilà. Mais je ne suis pas. Mon père était très très mystique. Mon père était, ça l'a sauvé certainement de beaucoup de dangers de la vie. Ma mère aussi, très croyante. Moi, j'ai été élevé dans une double religion, parce que mon père était catholique, ma mère protestante, d'origine juive. Donc, si vous voulez, il y a tout ça, c'est formidable. Moi, je crois beaucoup à la diversité, je crois beaucoup au comportement. Je crois beaucoup, je vous disais, le bien et le mal, c'est un raccourci. Je crois qu'il faut essayer autant qu'on peut, et là, peut-être qu'on se rapproche de l'idée de Dieu, d'essayer de... qu'on nous enseigne. Mais enfin, l'idée de Dieu qu'on nous enseigne, elle vient des hommes. Et je me méfie souvent de la façon dont l'instrument de pouvoir qui est devenu la religion. Je crois plus à la foi qu'à la religion, pour répondre.
Non, c'est intéressant, ça. Je voudrais revenir à... Tout à l'heure, vous avez souligné quelque chose de passionnant, très intéressant, à savoir le côté... la musique comme fédératrice... qui fédère à la fois les pays, qui fédère les religions. Vous avez...
Et les cœurs.
Et les cœurs. Et vous avez dirigé l'orchestre philharmonique du Maroc à l'occasion, en 2019, me semble-t-il. Vous avez, si je puis me permettre, vous avez joué à l'unisson des trois religions.
C'est un moment d'histoire.
C'est un grand moment d'histoire.
Qui m'a énormément touché à la demande du roi du Maroc, qui d'ailleurs m'avait eu vent d'un concert que j'avais donné pour les 20 ans de l'Orchestre du Maroc, qui s'approchait de ce que nous avons réalisé pour la venue du pape, qui n'était pas venu depuis 34 ans au Maroc. Et il y avait un dans le centre de formation des imams à Rabat, et on peut toujours d'ailleurs le voir sur Internet. Oui. C'est pas modeste que je vais vous dire, mais vous tapez Jean-Claude Casatu et le pape.
Et vous voyez, je suis allé voir.
C'est magnifique.
C'est magnifique.
Magnifique qui chante, une chanteuse juive, ma fille qui chante. C'est ma fille, mais elle est chanteuse.
Oui, c'est ça.
Vous nous avez demandé de venir, on l'a fait d'ailleurs totalement gracieusement, pour vraiment cet événement que je trouve admirable, des trois religions monothéistes. Et ça a été un moment merveilleux. Mais la musique m'a permis des rencontres absolument ineffables. C'est-à-dire qu'en 81 et 86, j'ai été reçu également au Vatican par Jean-Paul II, avec tout mon orchestre dans le Vatican. J'ai été aussi invité au cours d'un voyage officiel à Berlin, au moment où le mur sautait. J'ai été le premier au Reichstag à passer d'ouest en est alors que le mur venait de se lever. J'ai joué au Liban pour June Blatt et pour sa femme qui est la directrice du festival de Beth Edin. On a joué dans le Chouf où tout le monde se massacrait quelques années auparavant. On a joué un Requiem de Verdi inoubliable avec deux chanteurs noirs, Simon Estes et Grace Bunbury. On a joué ce Requiem de Verdi dans des Druzes, des Juifs, des chrétiens maronites, des chrétiens romains, des musulmans. C'est là où on prend la mesure extraordinairement spirituelle de ce lien que peut permettre la musique. A contrario, vous avez des extrémistes intégristes qui brûlent les instruments et qui considèrent, peut-être à raison, mais qu'en effet, le pouvoir de l'art leur ôte un peu de leur pouvoir extrémiste.
C'est ça.
Donc on est obligé de s'interroger sur, en effet, l'amélioration, si j'ose dire, de toute notre humanité grâce à l'art, pour répondre aussi un peu à la question que vous me posiez tout à l'heure, qu'est-ce que c'est l'art pour vous, et à la crainte que l'art peut représenter, comme d'ailleurs, dans un autre domaine, les religions, qui ont malheureusement, au nom de leur détermination, ont causé la mort de beaucoup de milliers, de milliers de gens. Or, normalement, ça devrait servir à l'apaisement, ça devrait servir à la paix et à la tolérance. Moi, je suis dans une...
Je
faut essayer justement de cultiver, et ça n'est pas facile, de cultiver la bienveillance. La bienveillance et la tolérance.
C'est un très beau mot, ce sont des très beaux mots. La bienveillance, veiller sur le bien de l'autre, c'est
moi, j'essaie de toutes mes forces de cultiver, si vous voulez, dans cette période en plus, qui est extraordinairement toxique, moralement. Et c'est pas commode.
Oui, c'est ça.
Parce qu'on est provoqué souvent à d'autres réactions.
Oui. Je voudrais, Jean-Claude Casatu, peut-être proposer la réflexion de Bergson, d'Henri Bergson. Pour Bergson, l'intelligence distingue, divise, classe. Voilà pourquoi, pour Bergson, l'intelligence est incapable de rendre compte du mouvement de la densité, de l'intensité et de la richesse de la vie. Et je le cite, « Le travers de l'intelligence est d'immobiliser ce qui est en mouvement. » Il faudra donc pour Bergson, comme pour Yankelevitch, un autre art que les mots, à savoir la musique. Êtes-vous d'accord, Jean-Claude Casatu, avec ce grand philosophe qu'est Bergson? Autrement dit, est-ce que pour vous, la musique combat le langage, ou au contraire, ces deux arts que sont la musique et le langage se complètent?
Mais attendez, il y a vraiment deux aspects dans votre question. Pour moi, je vais répondre en deux mots. L'intelligence, c'est l'adaptation. Premier point. Deuxièmement, la musique, il n'y a pas la subversion des mots.
Oui.
Or, on dit qu'au commencement était le verbe, très bien, Mais justement, la musique s'adresse à l'imaginaire. Donc vous pouvez, dans cet imaginaire, comme une auberge espagnole de la sensibilité, y apporter tout ce que vous avez de disponibilité. Alors, je trouve très très intelligent et très passionnant ce que dit Bergson et aussi Yankelevitch, qui était en plus un musicien, qui était un grand amoureux de la musique. Mais il y a un mystère de la musique. Il y a un mystère comme il y a un mystère de la foi. C'est-à-dire que vous recevez quelque chose qu'il est parfois difficile de mettre en équation. Vous avez les musicologues, très bien, mais il y a toujours un moment donné, comme quand on regarde le ciel et la galaxie, il y a toujours une interrogation sur qu'est-ce qui fait le génie de Jean-Sébastien Bach, de Mozart, de Beethoven, de Debussy, de Stravinsky, de Ravel, et aussi des grands contemporains. Alors, il y a un questionnement comme celui, oui, mais pourquoi est-ce qu'on peut avoir des doutes sur l'existence de Dieu? Ben, Dieu, ce n'est pas une existence, c'est un esprit.
Je
crois aux forces de l'esprit, comme disait Mitterrand.
Oui, je crois aux forces de l'esprit, oui. L'interview va malheureusement bientôt se terminer. Peut-être.
Ah, c'est-à-dire que tous les sujets que vous évoquez nécessiteraient de longs moments.
Je reviendrai vous interviewer avec grand plaisir.
Parce qu'en plus, on n'a pas forcément non plus la clarté d'esprit quotidienne certains sujets. Et puis, comme je pensais beaucoup à autre chose, parce que là, je prépare une symphonie fantastique et je prépare un concert dans quelques jours, que je vais peut-être avoir la chance de pouvoir diriger. Donc, ça mobilise l'esprit différemment.
Complètement.
Mais quand j'ai écrit, par exemple, j'ai adoré écrire, mais là, ça vous plonge dans une autre réflexion. Et l'écriture n'est pas la même chose que le verbe. L'écriture permet justement un approfondissement et une réponse à quelques questions. Enfin, essayer de trouver des réponses à quelques questionnements métaphysiques.
Est-ce que la différence de l'écriture permet de s'extérioriser et la musique de revenir à soi-même? Est-ce qu'il y a...
L'écriture permet d'aller plus en profondeur dans la réflexion.
Oui.
Parce que ce qui est écrit, et moi j'attache beaucoup d'importance à la... Si vous voulez, à la clarté et à l'authenticité de ma pensée.
Oui,
c'est ça. Alors que quand on parle, bon, mon Dieu, quelquefois on dit des bêtises, et puis on n'exprime pas forcément toujours ce que l'on peut ressentir, ou dans le noir, parce que dans le noir, on pense très très bien. Puis quand on se réveille, on a oublié ce qu'on pensait dans le noir. Et ça, c'est terrible. Moi, il m'est arrivé la nuit de me réveiller pour écrire ce que j'avais, parce que je trouvais que j'avais de temps en temps des envolées formidables que je n'arrivais absolument pas à retrouver le lendemain. Mais j'aime bien l'écriture, j'aime bien faire sonner... Enfin, j'essaye d'écrire de la façon dont j'essaye de faire sonner la musique. C'est-à-dire d'essayer de trouver le naturel dans l'expression. Non, pas la redondance, pas la prétention, essayer d'être naturel et d'être simple.
Simple. Une avant-dernière question, très très simple. Y a-t-il pour vous une bonne et une mauvaise musique?
Il y a des musiques qui vous touchent, il y a des musiques qui sont bien faites, il y a des musiques qui vous touchent et qui sont moins bien faites. C'est, là aussi, il y a quelque chose de très particulier dans le goût. Je crois qu'il n'y a pas de mauvaise musique, il y a des petites façons de la faire.
D'accord.
Et de l'aborder.
D'accord. Je voudrais terminer par une question. Vous avez tout à l'heure partagé votre grande devise qui est servir, oser, transmettre, obtenir. Je voudrais m'arrêter simplement sur la transmission. Vous êtes un amoureux de la jeunesse, vous êtes énormément occupé de jeunes musiciens, vous leur avez transmis à la fois l'art, votre talent, etc. Aujourd'hui, quel message pouvez-vous leur adresser? Qui plus est en ce temps de pandémie où tout le monde a... Voilà, ce sont des moments très difficiles pour tout le monde, qui plus est pour les jeunes et les étudiants. Quel message d'espérance pouvez-vous aujourd'hui leur adresser?
Ça dépend quel jeune. Les jeunes musiciens ou bien les jeunes en général?
Les jeunes en général.
Il faut essayer d'aimer. C'est le premier mot. Pour moi, c'est le plus beau. Et aimer, c'est aimer son prochain, c'est aimer ce qu'on fait, c'est aimer, c'est d'essayer de cultiver du désir. Le désir de transmettre, le désir d'éprouver aussi du plaisir, parce que c'est en se faisant du bien qu'on en donne mieux aux autres. Et c'est d'essayer de ne pas voir la bouteille à moitié vide, mais la bouteille à moitié pleine. Alors, il y a beaucoup de misère. Et alors là...
Oui,
ça serait vraiment honteux de ma part de vouloir donner des suggestions ou des conseils. Mais justement, essayer d'avoir un œil à l'autre, Ça y est, les musiciens. Et puis, le respect. Le respect. Dans mon métier, c'est très important, mais c'est très important dans la vie. Il y a un livre qui s'appelle Le Lavignac, qui est un grand livre de solfège, que l'on aborde quand on débute. Les premiers mots, c'est la musique, c'est le respect des valeurs. Or, je suis très très attentif à cette notion de respect, parce que d'abord, un artiste doit être respectueux de son art et essayer de... Et surtout quand il est traducteur-interprète, c'est compliqué. Mais quand il est créateur, c'est pareil. Et donc, respect, amour, et puis une forme aussi de, je crois, enfin, je vais avoir l'air redondant, mais une forme de modestie face à ce que l'on croit être et ce que sont les autres, qu'on n'apprécie pas toujours de la façon dont on devrait. Et loin de moi l'idée de donner des... Vous savez, je ne suis pas... Vous l'avez peut-être compris, je ne suis pas... Je ne suis pas un professeur, je ne suis pas un magistère. Et si vous voulez une définition de ce que je ressens, je suis plus un avocat qu'un procureur.
D'accord. Mais en tout cas, le essayer d'aimer, je trouve ça vraiment un très beau, une très belle expression que vous partagez aux jeunes qui malheureusement sont dans des moments difficiles comme vous et nous tous finalement.
Il ne faut pas rester seul.
Oui, c'est ça.
Oui, il faut cultiver la relation à l'autre.
Oui, c'est ça. C'est important, qui plus est. Et j'espère que, Jean-Claude Cassu, vous allez pouvoir ressortir de chez vous. Je voudrais citer Gustave Mahler. Je sais que vous aimez beaucoup Mahler. Regardez ce qu'il dit. « Le printemps ne me laissera plus rester dans cette maison. Je dois sortir et respirer profondément l'air à nouveau. L'air pour pouvoir respirer. Et je rajouterai l'air de la musique. » Je pense que Gustave Mahler est complètement d'actualité. J'ose espérer que le confinement s'arrêtera bientôt et qu'au printemps, nous pourrons retourner.
Oui, mais Gustave Mahler, qui était un artiste absolument extraordinaire, qui pour moi, si vous voulez, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais je sais que quelquefois on radote, et puis parce qu'on affirme ce qu'on croit penser, ce qu'on pense en tout cas, ce qu'on croit juste. C'est en musique ce que Stefan Zweig est pour moi en littérature. C'est-à-dire que ce sont deux amoureux de l'Europe qui ont pensé à un passé, qui ont pensé avec nostalgie à un passé qui aurait été heureux, et qui sont confrontés aux grandes conflagrations du XXe siècle. Alors ils ont un regard nostalgique vers ce qu'ils avaient rêvé pour l'Europe. Et j'ajouterais, en tant qu'artiste, il y a Rilke qui a écrit des choses absolument formidables. Être artiste, c'est ne pas compter, c'est croître comme l'arbre qui résiste au grand vent du printemps sans croire, sans penser que... Je recommence. Être artiste, c'est ne pas compter, c'est croître comme l'arbre qui résiste au grand vent du printemps sans craindre que l'été puisse ne pas venir. L'été vient, mais seulement pour ceux qui savent l'attendre aussi tranquille et ouvert que s'ils avaient l'éternité devant eux. Patience est tout, je l'apprends tous les jours au prix de souffrances que je bénis. Et il ajoute que la vie créatrice est si proche de la vie sexuelle, de ses souffrances, de ses voluptés, qu'il n'y faut voir que deux formes d'un seul et même besoin, d'une seule et même jouissance.
C'est magnifique.
Rien n'est pire pour un artiste que la critique, seul le cœur y parvient, et la profondeur en soi-même, etc. Donc si vous voulez, il y a dans ces réflexions, il y a de la philosophie, et il y a une interrogation sur, en effet, le devenir. On est tous impatients, on est tous vaniteux à un moment donné, on est tous un peu prétentieux à un moment donné, on a tous envie du succès. Mais c'est vrai que la pénétration des œuvres d'art, la pénétration de cette condition d'artiste, impose une réflexion philosophique sur qui suis-je, où vais-je, d'où est-ce que je viens, et à quoi est-ce que je sers.
Oui. Jean-Claude Cassu, merci beaucoup pour ces minutes que vous m'avez offertes. Merci pour votre humanité. Merci de m'avoir reçu. Je voudrais laisser le dernier mot à Arthur Toscanini, le grand chef d'orchestre. Et voilà ce qu'il dit. Il y a deux sortes de chefs d'orchestre. Ceux qui ont la partition dans la tête et ceux qui ont la tête dans la partition. Jean-Claude Cassu, je crois que vous êtes les deux. Vous avez... tellement la tête dans la partition pour pouvoir la travailler, et vous avez la partition dans la tête pour pouvoir l'interpréter.
J'ajouterais ce qu'a dit aussi un de mes illustres collègues, il y a ceux qui font jouer, il y a ceux qui laissent jouer et il y a ceux qui empêchent de jouer. Quand vous êtes dans un carcan et que vous êtes là, vous contraignez l'orchestre, bah, vous l'empêchez de s'exprimer. Quand vous lui laissez trop la bride sur le cou, c'est comme un cheval qui va brouter à droite et à gauche, il peut y avoir du tangage. L'essentiel, c'est justement, comme le pilote d'un bateau dans les vagues et qui doit planer, vous devez être capable de faire planer l'orchestre quand il peut, de le laisser jouer quand c'est nécessaire, de le reprendre quand il faut. Et c'est ça qui est compliqué. C'est que vous devez lancer un mouvement perpétuel, comme c'est de ça. L'eau qui coule, un ruisseau, un fleuve, une cataracte ou un filet d'eau. Mais le rythme, le mouvement ne doit, y compris dans les silences, ne jamais s'interrompre. C'est un fil conducteur. Et ça, c'est compliqué.
Je crois que vous êtes, en plus d'être un musicien, vous êtes un grand poète. Merci beaucoup de nous avoir reçus. Et vivement que les salles de spectacle et les concerts puissent reprendre pour qu'on puisse venir vous écouter avec grande joie.
J'espère que on ne contredira pas Malraux qui a dit « La culture, c'est ce qui reste quand on a tout oublié. » Et que malheureusement, nous traversons une période où j'ai un peu parfois le sentiment que c'est la culture qu'on oublie.
Alors, faisons en sorte de ne jamais l'oublier. Merci infiniment, Jean-Claude Gadatu. Merci.